Nous continuons notre étude avec la lecture du chapitre 2 du livre de Néhémie, la page 357. Il arriva au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, que je pris le vin et le donnai au roi. Je n'avais pas été triste en sa présence. Et le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Et pourtant, tu n'es pas malade. Ce n'est rien d'autre que de la tristesse de cœur. » Alors, j'eus extrêmement peur, et je dis au roi, « Que le roi vive à toujours. Pourquoi mon visage ne serait-il pas triste quand la ville, le lieu des sépulcres de mes pères, est dévasté et que ses portes sont consumées par le feu. Et le roi me dit, « Que demandes-tu ? » Et je priais le Dieu des cieux. Et je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur est agréable devant toi, qu'il m'envoie en Juda, à la ville des sépulcres de mes pères, et je la bâtirai. » Alors le roi me dit, et la reine était assise à son côté, « Combien de temps durera ton voyage, et quand reviendras-tu ? » Et il plut au roi de m'envoyer, et je lui fixai un temps. Et je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, qu'il me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, pour qu'ils me fassent passer jusqu'à ce que j'arrive en Juda, et une lettre pour Asaph, gardien de la forêt du roi, afin qu'il me donne du bois pour faire la charpente des portes du château fort attenant à la maison, et pour la muraille de la ville, et pour la maison dans laquelle je dois entrer. » Et le roi me les donna, selon que la bonne main de mon Dieu était sur moi. Et je vins auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur donnai les lettres du roi. Or le roi avait envoyé avec moi des chefs de l'armée et des cavaliers. Et quand Shambala le Horonite et Tobija le serviteur Ammonite l'apprirent, ils furent très mécontents de ce qu'un homme fût venu pour chercher le bien des fils d'Israël. Et j'arrivai à Jérusalem, et je fus là 3 jours. Et je me levai, moi et le peu d'hommes qui étaient avec moi. Et je n'avais informé personne de ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Je n'avais pas de bête avec moi, sinon la bête que je montais. Et je sortis de nuit par la porte de la vallée, en face de la source du chacal, vers la porte du fumier. Et je considérai les murailles de Jérusalem qui étaient en ruine, et ses portes consumées par le feu. Et je passai à la porte de la fontaine, et à l'étang du roi, il n'y avait pas de place où pût passer la bête qui était sous moi. Et je montai de nuit par le torrent, et je considérai la muraille, et je m'en revins, et entrai par la porte de la vallée, et je m'en retournai. Or, les chefs ne savaient pas où j'étais allé, ni ce que je faisais. Et jusque-là, je n'avais rien communiqué aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux nobles, ni aux chefs, ni aux autres qui s'occupaient de l'œuvre. Et je leur dis, « Vous voyez la misère dans laquelle nous sommes. Que Jérusalem est dévastée et que ses portes sont brûlées par le feu. Venez et bâtissez la muraille de Jérusalem, afin que nous ne soyons plus dans l'opprobre. » Et je leur racontai comment la main de mon Dieu avait été bonne sur moi, et ainsi les paroles du roi qu'il m'avait dites. Et ils dirent, « Levons-nous et bâtissons. » Et ils fortifièrent leurs mains pour bien faire. Et quand Shambalat, le Horonite, et Tobija, le serviteur Ammonite, et Gershem, l'Arabe, l'apprirent, ils se moquèrent de nous et nous méprisèrent, et ils dirent, « Qu'est-ce que vous faites là? Voulez-vous vous révolter contre le roi ?» Et je leur répondis, et je leur dis, « Le Dieu des cieux, lui nous fera prospérer, et nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem.
Un court rappel de ce que nous avons considéré cet après-midi avec le chapitre premier, à l'intention de ceux qui pouvaient ne pas être là. Nous avons donc situé ce livre de Néhémie par rapport aux événements contemporains et qui ont précédé le retour du résidu à Jérusalem. Nous avons rappelé en particulier dans le chapitre 3 du livre d'Esdras comment ceux qui étaient montés en premier lieu avaient rebâti l'autel sur son emplacement et insisté sur ce caractère du lieu où l'autel devait être placé. Ensuite, il y avait eu le temple avec 15 années pendant lesquelles le peuple s'était découragé sous la menace des ennemis et puis aussi parce que beaucoup étaient allés à leur propre maison, s'étaient occupés de leurs propres intérêts. Puis Dieu avait au milieu d'eux suscité ses prophètes âgés et Zacharie. Et là, on voit en lisant ces prophètes comment les choses se sont déroulées. Le temple avait été achevé. Et puis, quelques temps après, alors, Néhémie prend à cœur de monter. Et on a insisté sur la différence entre le livre d'Esdras et celui de Néhémie. Dans Esdras, nous avons plutôt l'aspect religieux, celui qui considère l'autel et le temple. Et puis dans Néhémie, nous avons le côté civil, c'est-à-dire Néhémie est d'ailleurs un gouverneur, n'est pas issu de sacrificateur comme l'était Esdras. Et alors Néhémie a un rôle, comme nous le verrons, dans la construction de la muraille. La muraille ne suggère pas l'aspect religieux que prend le peuple, mais celui de la séparation, celui de la mise à l'abri du peuple pour sa vie quotidienne. Et on a rappelé que nous n'étions pas des chrétiens du dimanche, que nous n'étions pas seulement appelés à adorer, mais que notre vie de tous les jours doit être en accord dans les circonstances habituelles de la vie avec ce que nous professons. Néhémie paraît donc sur la scène, c'est un homme que Dieu connaît, donc il connaît les affections pour lui. Son nom signifie « consolation de l'Éternel » et il va être en effet là pour consoler ce résidu qui est dans la peine, qui est dans un état de ruine. Et alors il reçoit des nouvelles, c'est la première chose, prend connaissance, il devient conscient des besoins de ce résidu. Son frère descend, son frère qui est un homme pieux, comme on l'a rappelé, au chapitre 7, il est question aussi de lui. Et voilà ces deux frères qui s'entretiennent, non pas de circonstances habituelles de la vie, mais vraiment des intérêts du Seigneur. Voilà ce peuple qui est dans l'opprobre, qui est dans une grande tristesse. L'exposé de cette situation fait pleurer Néhémie, première chose. Ensuite, elle le conduit à l'humiliation, à la prière. Et le voilà qui est conscient de ses besoins pendant une période qui dure 4 mois. Il est là simplement à prier, à s'adresser à Dieu pour ce peuple. Et qu'est-ce qui le sensibilise ainsi à cette situation ? C'est que c'est le peuple de Dieu. Malgré la ruine, ça reste le peuple de Dieu. Et on nous a rappelé que Dieu n'abaisse pas sa mesure en fonction de la faiblesse. Non, ses droits sont toujours les mêmes, sa sainteté est immuable, mais que dans les derniers jours, ces jours de faiblesse et de ruine, il y a tout de même des ressources. Et nous voyons un Néhémie conscient de cela, prend à cœur les intérêts de Dieu. C'est le peuple de Dieu, comme Moïse, dans le chapitre 11 des Hébreux, qui a choisi d'être dans l'opprobre avec le peuple de Dieu, parce que c'est le peuple de Dieu. Il continue à porter ce caractère, malgré l'état de ruine dans lequel il se trouve. Nous avions alors remarqué que il Il prépare sa rencontre avec le roi à partir du verset 11, demandant à Dieu de lui faire trouver miséricorde, il est dit, devant cet homme. Il ne craint pas l'homme. Le roi, tout roi qui, si important qu'il soit, c'est son, en même temps son supérieur, c'est quelqu'un qui est tout à fait au-dessus de lui, mais ce n'est qu'un homme. Et lui craint Dieu et ne craint pas l'homme. Et alors il mentionne là, j'étais échanson du roi, c'est une position élevée à la cour, il était l'objet de la confiance de ce grand roi, Artaxerxès, et voilà, il a maintenant devant lui une mission qui lui vient de Dieu lui-même.
Voyons la place que tient la prière. Le chapitre premier se termine par cette prière adressée par Néhémie au Dieu des cieux. Nous avons vu, il se réfère à ce que Dieu avait déclaré à Moïse. Et quel que soit la détresse, la situation du peuple dans son bas état, s'il s'humilie, Dieu lui fera trouver faveur et il y a encore des promesses de miséricorde et de grâce pour lui. C'est à celui que je regarderai, dit le prophète Ésaïe, lui qui a l'esprit contrit et qui tremble à ma parole. Nous avons remarqué aussi l'analogie qu'il y a entre Néhémie, Esdras et Daniel, le prophète, lui qui était sans faute, irréprochable, lui aussi se tourne vers Jérusalem, ouvrant toute grande fenêtre du côté de Jérusalem et se refaire à la prière qui avait été prononcée autrefois par le roi Salomon. Et nous voyons la réponse que Dieu donne, que Dieu va donner à Néhémie, qu'il va donner au prophète Daniel. Dieu aurait-il changé aujourd'hui, ô toi qui écoutes la prière? Toute chair viendra à toi. Dieu a fait des promesses. Nous confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Là, d'une manière individuelle, mais aussi, voyons ici, prière de Néhémie qui confesse bas état du peuple et qui prend sur lui ce péché, comme Daniel le fera aussi. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Nous avons cette longue prière auquel Dieu répond, et nous en avons une autre ici dans le chapitre 2 que nous pouvons souligner lorsque le roi l'interroge. Néhémie est surpris, mais nous le voyons en entendant les paroles de bienveillance du monarque. Nous voyons prier, et je priais le Dieu des cieux. C'est une prière qu'on a appelée une prière flèche, une prière intérieure. Et Dieu va répondre aussi à cette prière. Il est le Dieu de miséricorde, de grâce, toujours le même, encore aujourd'hui, toujours prêt à faire l'issue, à agir en délivrance dans les pires détresses. Il est là pour écouter la prière, pour voir le cœur qui se repent et qui revient, et pour faire l'issue. Pour faire l'issue et agir en délivrance.
dit aussi cet après-midi, Néhémie était un homme d'action et toute la suite de ce livre nous le montrera, mais c'était en effet aussi un homme de prière. Les deux caractères sont portés également par un Moïse, ou aussi par un Samuel. Et on peut dire la vie extérieure, ce que l'on voit d'un croyant actif, un croyant qui sert le Seigneur, n'est pas tout dans sa vie spirituelle. Il faut cet aspect caché, secret, entre Dieu et lui, qu'est la vie de prière. Un service préparé ainsi sera bien fait. On a besoin d'écouter, et nous avons le grand modèle qui nous est désigné dans le chapitre 50 d'Ésaïe. Il me réveille chaque matin pour que j'écoute comme ceux qu'on enseigne. Dans le premier chapitre de l'évangile de Marc, nous voyons le Seigneur longtemps avant le jour préparer ses journées. C'était des journées bien remplies, puisque le soir encore on lui amenait des malades et il les guérissait. Il y a donc toute cette préparation, cette vie cachée avec Dieu, et puis le fruit, ce qui est visible des hommes, et là c'est ce service qui est fait pour lui. Et on peut dire que Néhémie, ce que nous avons alors au verset 4 et qui a été rappelé, cette prière flèche, cette prière qui trouve sa place entre une question du roi et la réponse qu'il doit donner. Et je pense que ces rois, on ne pouvait pas les faire attendre longtemps pour leur donner une réponse. Il y a donc eu un cœur qui s'est tourné vers Dieu. Qu'est-ce que je dois dire? Comment est-ce que je dois répondre? Et cela me fait penser à cette exhortation des Thessaloniciens, prier sans cesse. C'est une disposition intérieure à se tourner vers Dieu, à lui demander une direction dans une situation qui se présente. Et cela, c'est essentiel. Il n'y a pas besoin de beaucoup de paroles. Un cri, un soupir, une demande. Assiste-moi, qu'est-ce que je dois faire? Quelle réponse est-ce que je dois donner? Et c'est très beau de voir ici Néhémie nous donner cet exemple. Un homme qui s'est tenu pendant 4 mois dans la présence de Dieu pour chercher sa volonté, pour s'humilier, pour confesser ses propres fautes et celles de ses pères en même temps que celles du peuple. Eh bien voilà, il est capable, le moment d'après, d'être devant le roi, mais ses relations avec Dieu sont toujours là. Et il y fait appel parce qu'il a besoin d'une réponse, de savoir ce qu'il faut répondre.
Nous vivons ce qui est écrit dans le psaume 31. Mais moi, ô Éternel, je me suis confié en toi. J'ai dit, tu es mon Dieu, verset 14. Mes temps sont en ta main. Sans que Néhémie réalise cela d'une façon bien particulière. Et nous entendions il y a fort longtemps un frère qui méditait sur ce livre de Néhémie et qui demandait au Seigneur dans sa prière, « Accorde-nous, Seigneur, d'être devant toi pour les hommes et devant les hommes pour toi. » Il semble que nous avons cela en Néhémie aussi d'une façon particulière.
Nous avons dans ce serviteur de Néhémie un exemple particulier d'un homme qui craint l'Éternel. C'est la condition aussi requise pour la réponse à la prière. Il peut dire au verset 11, « Je te supplie, Seigneur, que tes oreilles soient attentives à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. » Nous avons, dans l'assemblée locale, été exhortés il y a quelque temps par un frère en nous méditant le chapitre 2 de la première épître à Timothée. Nous sommes exhortés à faire des supplications, des prières, des intercessions pour tous les hommes, etc. Voilà notre responsabilité. Mais dans le deuxième paragraphe de ce deuxième chapitre de la première à Timothée, il y a les conditions morales. Je veux que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains saintes, sans colère et sans raisonnement. Voilà ce qui caractérise un ennemi. Et aussi dans ce chapitre, il y a l'attitude des sœurs aussi, pour que Dieu puisse répondre à la prière.
Parce que nous sommes obligés d'être droits pour voir que nos frères et sœurs ont mauvais visage et que cela est de la tristesse. Dans ce 20e siècle où chacun est stressé, où chacun parle des difficultés de l'être intérieur invisible, est-ce que sommes-nous pas aussi portés à regarder nos frères et sœurs tout en n'étant pas roi, et voir qu'ils ne sont pas malades, mais qu'il y a de la tristesse de cœur.
Il y a différents motifs pour lesquels un fidèle peut être triste. Et du reste, le sujet des visages est un sujet fort instructif dans la parole. Il nous en est déjà parlé tout au début de la Genèse. Et le livre des Proverbes est là pour nous dire que l'état du cœur est transcrit et visible par le visage. Il y a beaucoup de circonstances, d'évocations dans l'Écriture, de visages qui démontrent véritablement l'état du cœur. Si Néhémie eût été attristé à cause des circonstances, de la vie courante, tant de choses qui nous attristent, on peut bien penser que sa confiance, sa dépendance, sa spiritualité auraient enlevé sa tristesse. Il s'en serait remis à son Dieu. Mais si la tristesse vient par la constatation de l'état du peuple de Dieu et le fait que Dieu est déshonoré, sa spiritualité ou la spiritualité du même homme accentue sa tristesse. Tout dépend le mobile de la tristesse, la raison. L'apôtre Paul, lorsque il était lié de chaînes, écrivant aux Philippiens, peut leur dire, et par cela nous-mêmes, alors que toutes les circonstances extérieures de la vie l'auraient conduit à la tristesse, il peut nous dire par deux fois, réjouissez-vous. Cette tristesse des circonstances lui sont enlevées par la communion et la proximité avec son Seigneur. Mais lorsqu'il voit une assemblée dans un état fâcheux, Corinthiens, Galates ou d'autres encore, il peut dire qu'il supplie avec larmes. La tristesse est accentuée. Quels sont les motifs de nos larmes, de nos tristesses? On pourrait développer ce sujet, chacun peut le voir pour lui-même. On peut pleurer à cause des circonstances. Ce sont les larmes les plus faciles et les plus fréquentes, ce qui nous touche. On est appelé à pleurer sur soi-même. C'est déjà plus difficile, mais c'est indispensable. On peut pleurer à cause de l'infidélité de croyants. Et combien d'exemples n'avons-nous pas dans la parole d'hommes de Dieu qui ont pleuré? Nous le voyons dans le cas de Néhémie, d'Esdras, de Daniel, qui pleurent à cause de l'état du peuple. Et on voit un peuple, et pourtant c'est Israël, qui pleure dans la question de Nadab et Abihu, qui ont été consumés par le feu à cause de leur infidélité, à cause du déshonneur jeté sur le nom glorieux de Dieu. Dehors, nous est-il dit en Lévitique 10, le peuple pleurait l'embrasement que l'Éternel avait dû allumer. Ce sont certainement les larmes qui viennent en dernier, mais qui démontrent le plus haut degré de spiritualité. Ce sont les larmes, la tristesse, lorsqu'on réalise que le Seigneur est déshonoré. On pourrait donc considérer ce sujet de la tristesse du visage sous de nombreux aspects. Mais il est beau de voir chez Néhémie quels sont les motifs de cette tristesse. C'est l'état du peuple de Dieu et l'intérêt qu'il a pour lui et la conscience qu'il a du déshonneur jeté sur le Dieu de ce peuple qui les a ramenés en Judée. Il est intéressant aussi, on a parlé de cet homme. Il demande d'avoir faveur devant cet homme. Lorsqu'il s'agit d'un monarque face à Dieu, ce n'est rien d'autre qu'un homme. C'est un homme comme tous les autres. Du reste, devant Dieu, devant le Seigneur, il n'y a pas des degrés très variés de culpabilité. C'est bien la raison pour laquelle, dans l'évangile de Jean, le Seigneur est crucifié et deux autres avec lui. Face au Fils de Dieu, que ce soit des brigands ou pas des brigands, ce sont des autres. Néanmoins, lorsqu'il remplit ses fonctions, il doit alors respecter le roi. Et il n'est pas dit qu'il était échanson de cet homme. Mais il sert le roi et il est échanson du roi. Et en cela, il répond à ce que Pierre nous enseigne dans l'Écriture, qu'il faut honorer le roi. Là, il s'agit de Néhémie devant le monarque. Mais le monarque devant Dieu, c'est un homme. Pensez encore peut-être sur la fin de ce chapitre premier. Il est intéressant et beau de voir que Néhémie a conscience de deux choses. Il est pleinement conscient de la culpabilité du peuple de laquelle il prend sa part, puisqu'il dit « moi aussi ». Il ne se dissocie pas dans la culpabilité. Il se démontre coupable comme Daniel en son temps, comme Esdras. Il s'identifie dans la culpabilité devant Dieu quant à l'état du peuple. Il en est pleinement conscient. Et la deuxième chose de laquelle il est pleinement conscient, ce sont les ressources de la miséricorde de Dieu. Et il s'en souvient. Et il se rappelle les promesses faites par Dieu quant à une restauration possible moyennant humiliation. Et les paroles qui font l'objet de ces versets, donc les versets 9, principalement le verset 9, nous les retrouvons bien des fois dans les livres de Moïse, dans le Deutéronome, au chapitre 30, le début du chapitre 30 du Deutéronome est très précis, il nous redonne les mêmes pensées. Le gouvernement de Dieu était annoncé, car Dieu ne juge jamais sans avertir, jamais. Il l'a averti maintes fois, et déjà dans le Deutéronome, Moïse leur avait dit, si vous êtes infidèles, il vous dispersera parmi les nations. Donc ceux qui suspendaient leur harpe au saule savaient très bien pourquoi ils étaient là. Et d'autre part, il leur dit en même temps, Moïse leur dit, les paroles de l'Éternel, que même si leur dispersé était aux quatre vents des cieux, mais qu'ils se repentent, il les ramènerait. La promesse avait été donnée. Si Dieu annonce un jugement sévère, il l'accompagne, il l'assortit toujours des promesses de sa grâce, moyennant jugement de ses voies. Nous avons cela également à Lévitique 26, où il nous est dit au verset 40 de Lévitique 26, « Ils confesseront leur iniquité et l'iniquité de leur père. » Au verset 41, « Si alors leur cœur incirconcis s'humilie et qu'alors ils acceptent la punition de leur iniquité, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob et aussi de mon alliance avec Isaac, et je me souviendrai aussi de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai de la terre. » Mais s'ils confessent leur iniquité, n'oublions pas qu'il n'y a jamais de restauration possible sans humiliation. On peut commettre des fautes, des péchés, avoir des écarts, qui n'en a pas eu dans sa vie chrétienne. Mais souvenons-nous que le temps n'arrange rien. Le temps n'efface rien. Et la faute commise il y a fort longtemps, lorsqu'elle, on peut dire que devant Dieu, elle est aussi présente qu'au moment où elle a été accomplie. Ce qui l'effacera en quelque sorte, c'est la confession. Et la restauration ne viendra pas à cause des années qui se sont écoulées, elle sera produite par le jugement de nos voies, par notre humiliation. Et c'est toujours le seul seuil par lequel une restauration peut être produite, quelle que soit la nature de la faute. Et c'est par cela qu'Israël, comme peuple, devra passer. Et quel sera ce seuil de l'humiliation lorsqu'ils devront se lamenter comme on se lamente sur un fils unique? Et la bénédiction pour Israël ne viendra pas avant. L'enfant prodigue n'a retrouvé la joie de la bénédiction et de la communion que lorsqu'il a dit « j'ai péché ». Et c'est ce que nous avons ici, et c'est ce dont Néhémie est conscient. Il est conscient de la culpabilité, il est conscient aussi des promesses faites au Père, moyennant l'humiliation, et on peut dire qu'il évoque ces promesses, et il s'enhardit en quelque sorte. Lorsqu'il peut dire de ses fils d'Israël, « Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et ta main forte. » C'est un peu le même langage que tenait Moïse après l'affaire du veau d'or, lorsqu'il intercède tant il est attaché à ce peuple, et pourtant s'il avait lieu d'être courroucé et animé d'une sainte colère. Mais il intercède, il peut dire qu'il va se présenter devant Dieu, peut-être, dit-il, ferai-je propitiation, c'est un homme, dans le Seigneur il n'y a pas de peut-être. Mais il va mettre, si l'on peut dire, tout en jeu, et s'avancer avec hardiesse devant Dieu en lui disant en quelque sorte, mais souviens-toi que ce peuple est ton peuple. Combien il est beau de voir cette hardiesse qui est le produit d'un amour pour Dieu, afin qu'il soit glorifié dans un peuple racheté et un peuple restauré, et l'amour pour ce peuple. Et qui est prêt à renoncer à tout confort, à mettre en jeu sa position, ses avantages, s'il peut en résulter de la gloire pour son Dieu et de la bénédiction pour le peuple de Dieu.
Et en même temps, Néhémie n'est pas un héros, n'est pas un surhomme. Et il nous est bien dit au verset 3, « Alors j'eus extrêmement peur. » Bien sûr, il est animé de sentiments que l'Esprit de Dieu met dans son âme, et il va plaider, intervenir en faveur de ce peuple, mettre en jeu sa position, comme on vient de le dire. Mais cela n'empêche pas les sentiments. Il est là et il tremble. Il se rend compte que la question du roi peut avoir des conséquences, même pour sa vie. C'est bien que ces monarques assyriens, babyloniens ou perses, ou tous ceux qui ont suivi, la vie humaine ne comptait pas beaucoup. Et on se débarrassait d'un serviteur qui était haut placé un jour et qui le lendemain était jeté en prison ou exécuté. J'eus extrêmement peur. Mais voilà, il est là. Et malgré tout, sa prière monte vers son Dieu.
Toute cette attitude de Néhémie est d'une extrême beauté et pleine en effet d'enseignement. Il a extrêmement peur. Bien sûr, le vin, comme il nous est dit dans les Juges 9, est là pour apporter la joie au cœur de Dieu et des hommes. Et de se présenter devant le roi avec un visage troublé, troublait cette joie et était incompatible avec la haute charge qui était la sienne. Mais alors on voit cette intelligence spirituelle et si remarquable de Néhémie quand il peut dire « Pourquoi mon visage ne sera-t-il triste quand la ville, le lieu des sépulcres ?» Quand il s'adresse au roi, il ne parle pas du peuple qui est dans le dénuement, mais il parle de la ville que l'Éternel a choisie, sur laquelle l'Éternel a ses yeux, cette ville qui est Sion, qui est Jérusalem, la ville de la grâce, qui a, elle, été alors déshonorée par l'iniquité du peuple de Dieu. Et c'est bien la première pensée là de Néhémie, de rappeler la gloire de l'Éternel. C'est cette ville qui était la métropole du monde, entre Dieu siégé au milieu des chérubins, qui le redeviendra, mais il a la conscience de la gloire de Dieu, qui a été déshonorée. Et si son visage est défait, c'est bien en rapport avec la ruine du témoignage qu'aurait dû donner le peuple d'Israël.
Dans ce dernier verset du premier chapitre, il dit « Fais réussir aujourd'hui » en s'adressant à l'Éternel. Il s'attend à ce que Dieu intervienne, mais il ne lui dit pas comment. Il n'imagine pas une manière d'agir et puis demande à Dieu de bénir sa manière d'agir. Il attend, on l'a vu, 4 mois, que ce soit Dieu qui conduise les circonstances. Le deuxième point que j'aimerais relever, je n'avais pas été triste
en sa présence. Il n'y a pas un calcul chez Néhémie pour attirer l'attention. Au contraire, il veille à ce que rien ne se remarque. C'est Dieu qui va ouvrir les yeux du roi. Nous n'avons pas à chercher à attirer l'attention par un état triste, nous croyons. Au contraire, nous sommes appelés à attirer l'attention par l'espérance qui est en nous, de sorte que, tel qu'on le lit en 1 Pierre 3, on nous pose des questions sur cette espérance que l'on remarque dans le monde.
J'aimerais poser une question aussi. Dans le verset 3, l'expression « que le roi viva toujours » dans la bouche d'un homme de Dieu, est-ce qu'elle est là comme une formule toute faite, une formule de politesse, ou est-ce qu'il y a une pensée qui peut traduire une faiblesse chez Néhémie ? Que le roi viva toujours.
C'est sans doute la formule de politesse avec laquelle on s'adressait au roi. Nous voyons Daniel employer exactement les mêmes expressions. Le roi vive à jamais. C'est donc bien la façon dont le serviteur devait s'adresser à son monarque. On peut employer à propos de Néhémie l'expression qui est attribuée à Moïse par Étienne en acte 7. Il lui vint au cœur de visiter ses frères. Donc c'était un exercice dans son cœur. Et nous voyons que sa tristesse détectée par le roi était une tristesse de cœur. Et ce qui doit retenir notre attention pour tous les serviteurs et servantes utiles au sein du peuple de Dieu, ce sont leurs exercices de cœur. C'est là que tout se joue. Et l'état de nos affections pour le Seigneur est en relation directe avec nos affections pour ceux qui lui sont chers. Et vu l'état de dégradation de cette ville et du peuple qui se trouvait en elle, on comprend cette tristesse de cœur. Il est tout à fait étonnant que le roi souligne cette chose avec autant de perspicacité. C'est Dieu qui fait parler ce roi, qui a discerné quelque chose dans le cœur de cet homme qui se tenait devant lui. Et nous assistons ainsi à cet aveu de la faiblesse humaine de Néhémie qui le rend plus proche de chacun de nous. Quand nous passons par des moments difficiles, des épreuves qui nous tenaillent, eh bien, il y a dans notre âme ces angoisses aussi. Un serviteur, avant d'être employé en public par Dieu, doit passer par là. Il y a en quelque sorte comme le brisement de toute sa volonté pour qu'il s'en remette entièrement à Dieu qui va alors opérer. Et il n'a aucune réserve à déclarer la vérité. Il se tient devant le roi, mais avant tout devant Dieu. Dieu a la priorité puisqu'il a pu prier avant d'exprimer ce qu'il avait à dire et il dit très clairement ce qui se passait dans son cœur. Voilà comment Dieu peut nous employer aussi de manière utile au sein de son peuple et pour le bien de son peuple. Et nous voyons cette expression, pourquoi mon visage ne serait-il pas triste quand la ville, le lieu des sépulcres de mes pères est dévasté et que ses portes sont consumées par le feu. Donc il décrit la scène telle qu'elle se présente réellement. Et c'est ainsi aussi que nous pouvons apporter à Dieu ce qui produit en nous de la tristesse de cœur, lui dire exactement ce que nous éprouvons, ce que nous ressentons dans nos cœurs. Et cela est agréable à Dieu. Dieu emploie ici un intermédiaire, et tout au long de ce livre, Néhémie a des comptes à rendre à ce monarque, puisque le lot ami a été prononcé sur ce peuple par Dieu, et bien désormais, il doit être soumis à l'autorité que Dieu a mise en place à ce moment-là. Et nous voyons Néhémie qui obtient la réponse clémente du roi. Dieu incline les cœurs des rois comme des ruisseaux d'eau. Sans doute pour répondre à la question qui a été posée, de discerner la tristesse de cœur chez nos frères, c'est tout à fait juste. Nous devrions la discerner si nous sommes spirituels et ainsi répondre à ce proverbe qui dit « un frère est né pour la détresse ». Nous devrions comprendre nos frères qui passent par des tristesses de cœur. Ils sont les mieux placés s'ils se tiennent devant Dieu en cultivant la crainte de Dieu. Et c'est ainsi que nous voyons un Daniel, par exemple, qui convoque ses amis pour implorer le Dieu des cieux afin de découvrir le secret du roi. Nous avons, bien sûr, Néhémie n'a pas le temps. Il faut de convoquer quelques-uns des hommes pieux du peuple. Il a été préparé pendant les 4 mois et cette prière éclair qu'il adresse à Dieu va en quelque sorte dynamiser toute son énergie pour parler au roi sans la moindre réserve et dans la crainte de Dieu, bien sûr.
Toute cette manière dont les choses se passent est très remarquable parce qu'elle montre la réalité de la confession et de l'état de confession, de tristesse, d'humiliation de Néhémie devant Dieu. Il avait dit « Nous avons tous péché ». Et il venait tous les jours devant le roi. Le jour où il a eu à cœur, le jour où il a eu les nouvelles par son frère, il aurait pu demander au roi d'intervenir. Il aurait pu demander au roi ce qu'on le voit demander après. Mais il ne le fait pas tout de suite. Et c'est parce qu'il a reconnu que cette situation, nous le voyons dans sa confession, était le résultat du péché du peuple. Et il dit aussi de son péché. Et il est vrai que Dieu avait permis un réveil, nous l'avons rappelé en Esdras. Mais depuis le temps, depuis que l'autel avait été rétabli et que le temple avait été construit, nous avons vu les murailles n'avaient pas été encore construites. Et Néhémie attendait, certainement c'est la pensée, attendait que Dieu lui-même, et non pas Néhémie, même s'il avait la chose à cœur, lève en quelque sorte le jugement qu'il avait dû prononcer. Et nous retrouvons cela dans ce que David doit dire quand il a péché. Et cela peut aussi s'appliquer dans le cas de Néhémie, bien que les cas soient très différents. Mais David, au psaume 51, verset 4, dit « contre toi seul j'ai péché et j'ai fait ce qui est mauvais à tes yeux, afin que tu sois justifié quand tu parles, trouvé pur quand tu juges. » Néhémie, dans sa confession, avait reconnu que leur état était le résultat du jugement de Dieu, mais que Dieu était juste quand il parlait et pur quand il jugeait, parce que c'était le résultat de leur péché. Et alors il attend. Et nous voyons dans ce psaume 51 aussi à la fin, au verset 17, « Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé, ô Dieu, tu ne mépriseras pas un cœur brisé et humilié. » Néhémie commence, on a dit à plusieurs reprises, c'est un homme d'action, mais il commence son action avec un cœur humilié et brisé. Et ce qui est remarquable dans ce psaume 51, c'est que le verset suivant dit « Fais du bien dans ta faveur à Sion, bâtis les murs de Jérusalem. » Et nous voyons cette construction des murs de Jérusalem qui sera selon Dieu. Le point de départ, c'est l'exercice d'un cœur, mais elle viendra au moment où Dieu lèvera partiellement, nous l'avons vu, puisqu'ils sont restent soumis à leurs responsabilités, mais lèvera le jugement qu'il avait dû prononcer contre son peuple.
Néhémie n'a pas prononcé au roi les paroles des versets 3 et 4 de manière inattendue, non préparée, puisque la fin du chapitre 2 place devant nous tout l'exercice qu'il a connu en communion avec ses frères et ce qu'il avait à cœur de demander au roi. Mais il, humainement, si l'on peut dire, il redoutait de le demander. Il avait pleine confiance en son Dieu, il expose cette requête, cette prière demandant qu'il ait faveur. Et tout cela traduit quand même que ce n'était pas peu de choses, c'était prendre en quelque sorte humainement des risques que de faire une telle requête à son roi. Et il redoutait en quelque sorte cette tristesse, car il savait qu'elle était interdite. Du reste, dans le livre de Daniel, au premier chapitre, lorsque Daniel et ses compagnons demandent de ne pas se souiller par les mets délicats du roi et de ne pas avoir la même nourriture, quelle est la réponse et la crainte exprimée par le chef des eunuques? Mais quand il dit au verset 11, « Je crains le roi, mon Seigneur, qui a prescrit votre nourriture et votre boisson, car pourquoi verrait-il vos visages plus tristes que ceux des jeunes gens de votre âge ?» Tout cela montre qu'on n'avait pas le droit d'être triste. C'était un danger de mort. Et lorsque Néhémie entend ces paroles de la part du roi, nous comprenons qu'il a été effrayé. Mais ce qui est merveilleux, c'est que la grâce de Dieu se sert de ce qu'il craignait, c'est-à-dire la tristesse visible, pour donner une évolution, si on peut dire, et produire la question posée par le monarque. C'est précisément la tristesse qui était redoutée et qu'il exposait. Et c'est ce qu'il craignait que la grâce de Dieu emploie et se sert souvent de nos faiblesses pour nous venir en aide, et non pas par une manifestation prétendue de puissance. Mais il manifeste sa puissance en grâce dans notre infirmité. Et la tristesse redoutée, c'est la grâce de Dieu qui s'en sert pour conduire le monarque à poser cette question et en quelque sorte ouvrir la voie à Néhémie pour que lui-même fasse sa requête. C'est extraordinaire de voir de quoi la grâce de Dieu se sert, de la faiblesse des siens. Et on a déjà évoqué cette droiture chez Néhémie qui dit pourquoi. On pourrait dire, mais qu'est-ce que cela pouvait bien intéresser Artaxerxès, tout à fait étranger aux conditions de la Judée, de la maison de l'Éternel, que de savoir que les murailles de Jérusalem étaient écroulées et que les portes étaient consumées par le feu. En quelque sorte, ce n'était pas son affaire. Mais la droiture de Néhémie, l'amour pour son Dieu et pour son peuple, ne n'use pas de détournement pour chercher un alibi ou exposer un autre motif. Il lui dit les raisons pourquoi son cœur est triste, et son cœur étant triste, pourquoi cela se voit-il sur son visage. Et avant de faire la requête, encore facilité par la question du roi, que demandes-tu? C'est bien ce qu'on vient de nous dire, ces cœurs des rois inclinés comme des ruisseaux d'eau, lorsque Dieu s'en sert de ces rois étrangers aux pensées de Dieu pour venir en aide à ce qu'un cœur fidèle souhaite ardemment. Il ouvre la voie. Que demandes-tu? Et cette dépendance qui montre que Néhémie ne s'empare pas de cette question pour faire sa requête immédiatement, mais il a premièrement affaire avec son Dieu. Il prie son Dieu. Mais nous aimerions évoquer une pensée toute pratique. Et nous pensons avec beaucoup d'affection et de sollicitude à la jeunesse, confrontée à tant de choix comme nous le sommes tous. Il n'y a pas que le choix de la vie et de la mort, de la conversion ou de la perdition, mais la vie est faite de choix tous les jours, voire à chaque heure. Nous sommes placés devant des choix où notre amour pour Christ, pour la vérité, se montre. On a dit que Néhémie était donc dans une position enviable, de pleine confiance, et cela est encore traduit par le fait que le roi lui dit « Mais combien de temps seras-tu absent ?» Il s'impatiente qu'il soit de retour. Donc, il quitte des avantages enviables sur le plan humain. Une position, on peut dire, en honneur et chanson du roi. Pourquoi? Pour aller visiter des ruines, pour parler à des cœurs qui sont devenus insensibles, pour entreprendre un travail, on peut dire, qui dépasse les mesures et les capacités humaines. Il renonce à tout. Par amour pour Jérusalem, c'est-à-dire pour le Dieu de Jérusalem et pour son peuple. Renoncer à des avantages. Et cela place devant nous tout un programme. Et la question se pose à nos cœurs. Sommes-nous disposés à renoncer à des avantages de la terre pour Christ? Dans un temps tel que celui que nous vivons, où on peut dire que la course effrénée du cœur humain, c'est la recherche des honneurs, des avantages, des facilités. Et nous ne sommes pas à l'abri de ces dispositions. Nous sommes aussi exposés en tant que croyants, frères et sœurs, souvent à, bien que tant attachés au Seigneur, à son témoignage, à son assemblée, néanmoins à être aussi ou parallèlement bien attachés à des avantages que la vie d'ici-bas nous offre. Mais voilà un homme qui renonce, exactement comme Moïse, dont on a évoqué le souvenir, selon cette foi qu'il a animée, citée en Hébreux 11, qui a été dit cet après-midi. Il a estimé, ça c'est l'appréciation de la foi. Chacun peut souligner dans ce passage d'Hébreux les quatre verbes, il vaut la peine peut-être de les lire, puisque nous avons les mêmes dispositions chez Néhémie. Par la foi, Moïse étant né, fut caché 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et ils ne craignirent pas l'ordonnance du roi. Par la foi, Moïse, étant devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, choisissant plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps des délices du péché, estimant l'opprobre du Christ un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte, car il regardait à la rémunération. Moïse refuse, il choisit, il estime, il regarde. On a les quatre dispositions de la foi. L'énergie de la foi, refuser. Décliner les offres, même légitimes, de ce monde. Il refuse. Il faut beaucoup d'énergie. Énergie de la foi. Il choisit le discernement de la foi. Il faut apprécier les vraies valeurs pour choisir valablement. Il estime l'appréciation de la foi. Et qu'est-ce qu'il a estimé? Que tous les avantages et les honneurs de la cour qui lui étaient offerts étaient des choses méprisables face au service de son Dieu et de son peuple. Comme un apôtre plus tard qui a estimé tous ses avantages comme des ordures à cause de Christ. Et ensuite, il regarde, c'est la confiance de la foi. Il est confiant dans la rémunération du Seigneur. Renoncer pour Christ. Sommes-nous disposés dans nos voies d'homme ici-bas, confrontés par les occupations, les contraintes, tout ce à quoi nous sommes confrontés dans notre vie professionnelle et autre? Sommes-nous disposés à renoncer à des avantages pour le Seigneur? Domaine professionnel, domaine familial, domaine des loisirs. Renoncer à un loisir qu'on souhaiterait, mais pour Christ. Parce que cela nous mettra à distance du rassemblement pendant nos loisirs ou tant d'autres choses, ou nous mettra en contact avec le monde. Renoncer. L'ennemi est prêt à renoncer à tous les avantages de la cour du roi qui a pleine confiance en lui, mais pour accomplir le service pour lequel le Seigneur l'a appelé et pour lequel il le forme.
Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, dit le Seigneur, qu'il se renonce soi-même et prenne sa croix chaque jour et me suive. C'est cela, si quelqu'un veut être mon disciple. Je propose que nous chantions le cantique 226.
Oh. il est bien remarquable que ce que nous avons vu dans ces chapitres, dans le premier chapitre et dans ces versets maintenant, a été déclenché par la réponse de ceux qui sont revenus et qui ont vu la misère qu'ils ont rencontrée à Jérusalem. Et cela a déclenché dans le cœur et dans l'attitude de Néhémie tout ce que nous avons examiné cet après-midi et maintenant. C'est bien remarquable que lorsque nous savons, quelqu'un nous dit quelque chose, quelqu'un nous parle d'un exercice, d'une misère, eh bien, c'est bien pour nous une responsabilité qui s'ensuit. La responsabilité de placer ces choses devant le Seigneur. Et c'est ce que nous avons dans ces chapitres aussi, dans ce premier chapitre et dans ce deuxième chapitre. Il place la chose devant le Seigneur. Et la réponse viendra de lui. Est-ce que nous sommes préparés à cela, ayant compris, reçu une vue, une attitude? Est-ce que nous sommes prêts maintenant à prendre le temps de mettre la chose devant le Seigneur, à lui demander d'intervenir? Et Néhémie l'a fait et Dieu l'a béni.
Peut-être peut-on juste souligner, puisque cela se trouvera dans des chapitres qui seront sans doute au-delà de ce que nous pourrons considérer, ajouter à ce caractère de la foi de Néhémie, l'amour de Néhémie pour ses réchappés. Nous voyons au chapitre 5, au verset 14, « Dès le jour aussi où je fus établi leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères, nous n'avons mangé le pain du gouverneur. » Nous apprenons par là qu'il avait été nommé en même temps qu'il était envoyé par le roi gouverneur. Il avait une position officielle au-dessus de ses frères. Et nous voyons qu'il n'use pas de son droit, un peu comme l'apôtre Paul aussi chez les Corinthiens, qui ne voulait pas user de son droit pour rendre l'évangile exempt de frais. Mais nous voyons ensuite au chapitre 13, au verset 6, « Pendant tout cela, je n'étais pas à Jérusalem, car la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone, j'étais allé vers le roi, et au bout de quelque temps, j'avais demandé au roi la permission de m'en aller. » Nous voyons qu'au bout des 12 ans, il a renoncé sans doute complètement à sa charge des chansons. Et nous voyons d'après le chapitre 5 qu'il a eu son titre de gouverneur pendant 12 ans, et que quand il est revenu probablement au chapitre 13 pour rester définitivement à Jérusalem, eh bien, il n'avait plus aucune de ses fonctions officielles, et cela par amour pour ses réchappés qui étaient à Jérusalem. Nous avons fait la comparaison avec Moïse. Nous avons vu que Moïse, dans le chapitre 32 de l'Exode, il était prêt à, nous savons que c'était impossible, mais il était prêt à offrir sa vie pour son peuple. Mais Moïse, nous ne voulons rien atténuer ce qu'il a fait, mais comparons la situation de Moïse. Moïse était prêt à se sacrifier pour le peuple dans son ensemble. Tout le peuple d'Israël, comme il était au début, c'est vrai après son péché, mais le peuple dans son ensemble. Et Néhémie, il manifeste et sa foi et son amour pour quelques réchappés qui étaient revenus à Jérusalem. Nous voyons au chapitre 7, je crois, au verset 4, « Or la ville était spacieuse et grande, mais le peuple peu nombreux au milieu d'elle. La plupart n'étaient pas remontés, ce n'était plus le peuple dans son ensemble. C'était pour quelques réchappés méprisés, mais ils avaient un tel prix aux yeux de Néhémie, parce que nous avons vu, c'était l'emplacement, le lieu fixe, et c'était l'endroit où la muraille devait être construite, où la ville de Dieu devait être établie. Eh bien, cela avait un tel prix pour sa foi, et il avait un amour tel pour ses réchappés, qu'il abandonne tout pour venir à Jérusalem. »
Néhémie 2, verset 5. Nous avons... Et je priais le Dieu des cieux et je dis au roi. Donc, il est intéressant de nous imaginer cette scène
de Néhémie, qui pourtant avait l'habitude d'être devant le roi, c'était son métier. Et là, il était désemparé, parce qu'une circonstance nouvelle arrive. Le roi remarque qu'il est triste, mais Dieu est derrière la scène.
Il avait demandé dans sa prière, fais réussir aujourd'hui. Et le Seigneur utilise des circonstances. Nous pourrions lire en Matthieu 10 un verset intéressant qui se rapporte à une circonstance particulière aussi. En Matthieu 10 et au verset 19. Et quand ils vous livreront, ne soyez pas en souci comment vous parlerez, ni de ce que vous direz, car il vous sera donné dans cette heure-là ce que vous direz. Car ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parle en vous. Bien certainement que nous pouvons faire une analogie entre ce que le Seigneur disait à ses disciples et ce que Néhémie a vécu. Il eut extrêmement peur. C'était une circonstance particulière. Et voilà, les paroles lui sont données, parce qu'il y a eu une préparation pendant des mois. Il avait un cœur qui brûlait pour ce peuple. On peut se poser la question pour chacun de nous. Comment notre cœur brûle pour ceux qui nous entourent, qui sont dans la misère, en pensant aussi à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont dans la misère. Et l'apôtre Pierre peut le dire aussi, soyez toujours prêts pour répondre à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Est-ce que ça veut dire qu'on aura toujours dans notre poche un discours tout prêt? C'est pas cela. C'est la même situation que Néhémie et qui est rappelée en Matthieu 10, où réellement l'Esprit dirige. Mais il y a cette préparation du cœur qui se fait par la prière. Et cela est extrêmement important. Le Seigneur encourageait en Matthieu 10 ceux qui seraient livrés, fouettés à cause de son nom. Chers amis, nous ne connaissons pas la persécution. Mais cet état de cœur, être prêt, savoir que c'est l'Esprit qui parle en vous. Eh bien, n'attristons pas cet esprit et laissons, comme Némi, parler notre cœur. Il a été droit devant le roi, comme il a été rappelé tout à l'heure, mais qu'est-ce que Artaxerces pouvait bien s'intéresser à ses cailloux et ses portes brûlées? Mais il était droit. Et Dieu lui avait donné cette opportunité. Eh bien, saisissons aussi les occasions que Dieu nous donne. Ne craignons pas, disons ce que le Seigneur nous a mis dans le cœur.
Toi, le Dieu juste, tu as plané le sentier du juste. Nous avons vu cette préparation de Néhémie. Il a à cœur la ville, les intérêts du peuple. Et ici, dans la circonstance, dans les versets qui sont devant nous, nous voyons que Dieu dispose toutes choses et ouvre le chemin. Il y a cette franchise, on a souligné cette franchise, cette droiture du cœur. Tu veux la vérité dans l'homme intérieur. Trouvons des hommes comme Abraham en Égypte qui a peur, comme David chez les Philistins qui a peur aussi. Ils n'étaient pas où Dieu les voulait, ils n'étaient pas dans un bon état. Ils doivent revenir. Il y a cette tendance aussi dans notre vie quotidienne de la crainte de l'homme que les proverbes soulignent. La crainte de l'homme tend un piège. Eh bien, trouvons ici un serviteur préparé par son Dieu et qui voit ainsi la main de son Dieu. Cette expression est soulignée plusieurs fois dans notre lecture, comme elle l'est aussi soulignée dans le livre d'Esdras, au chapitre 8, la bonne main de son Dieu se manifeste pour ouvrir le chemin, pour faire ce qui est bon à ses yeux, inclinant le cœur de ce monarque. Je souligne encore que dans une circonstance comme celle que Néhémie a eue avec ce monarque, nous avons la tendance de nous dérober, de craindre de l'homme, de dissimuler. Et cela nous arrive, mes amis, dans le monde, dans nos contacts. Eh bien, nous ne devons pas, si nous sommes en communion avec Dieu, nous ne devons pas avoir peur de l'homme. Et si nous nous tenons devant Dieu, nous saurons aussi nous tenir de sa part devant les hommes, comme cela a été souligné tout à l'heure.
Néhémie est là devant le couple royal. Pourquoi ce détail? La reine était assise à son côté. Peut-être parce que ça donne une certaine solennité, la pompe telle que nous l'avons quand Paul paraît devant le roi Agrippa. La reine Bérénice est là aussi. Il y a toute la gloire humaine est là présente. Le roi n'est pas seul, peut-être est-ce donné aussi parce que il y avait là une note qui pouvait apporter chez le roi, par la présence de la reine, une bienveillance. Un homme n'est pas toujours le même en présence de sa femme. Mais la parole de Dieu donne ce détail. Alors le roi a son cœur incliné et pose une question. Et de nouveau, là, il faut une réponse rapide. On peut bien penser, bien que ce ne soit pas mentionné, que Néhémie s'est de nouveau adressé à Dieu. Combien de temps durera ton voyage? Quand reviendras-tu? Voilà une question à laquelle il fallait une réponse rapide. Et on peut être étonné si vraiment Néhémie, ce que la parole ne nous dit pas, mais si ce que nous avons lu au chapitre 5, fixe le temps, c'est 12 ans, c'était beaucoup, beaucoup demandé. Je ne reviendrai que dans 12 ans. C'était une demande vraiment, il fallait toute la puissance de Dieu pour incliner le cœur de ce roi. Comment, si longtemps, je puis disparaître dans l'intervalle, il te faut 12 ans pour aller dans ce pays. Voilà, nous ne savons pas s'il y a eu un retour intermédiaire ou quoi, mais c'est ainsi que les choses nous sont présentées dans la parole. Et il nous a dit, et il plut au roi de m'envoyer. Je lui fixai un temps. C'est certainement une réponse de Dieu qui lui a inspiré aussi cette parole.
Il semble que Néhémie prend confiance d'une façon particulière quand il dit alors, je lui fixai un temps. La confiance grandit dans la conversation, semble-t-il.
Et tout ce qui suit nous montre que Néhémie n'était pas un homme impulsif qui improvisait là une réponse. Tout est pesé. Il y a certainement déjà bien pensé avant. Il énumère tout ce qu'il lui faut. Voilà, il lui faut du bois, il lui faut pour faire la charpente, et tout cela montre un homme qui calcule, qui voit les choses nécessaires, qui est sage, qui est prudent. Encore quelque chose qui est à souligner quand on parle de cet homme de Dieu.
On a quelquefois comparé ces versets 7 et 8 avec l'attitude d'Esdras au chapitre 8 de son livre, au verset 21 et 22. L'attitude de ces deux serviteurs est totalement différente et la conclusion est à peu près la même, à savoir que la bonne main de Dieu était sur eux. Néhémie dit « La bonne main de mon Dieu était sur moi » et Esdras dit au verset 22 « La main de notre Dieu étant bien sur tous ceux qui le cherchent. » Alors l'attitude d'Esdras est la suivante. « J'avais honte de demander au roi des forces et de la cavalerie pour nous aider en chemin contre l'ennemi, car nous avions parlé au roi en disant « La main de notre Dieu étant bien sur tous ceux qui le cherchent, et sa force et sa colère sont contre tous ceux qui l'abandonnent. » Et nous jeûnâmes et nous demandâmes cela à notre Dieu, et il nous exauça. » On a souligné cet après-midi que Esdras, sacrificateur de l'Éternel, s'était occupé de la partie religieuse, de la partie spirituelle concernant le peuple. Il était un scribe accompli dans toute la loi de Dieu. Et il s'occupait dans ce voyage, avec ceux qui l'accompagnaient, de transporter les ustensiles d'argent et d'or du sanctuaire. Il était donc en mission de la part de Dieu pour ramener de Babylone à Jérusalem, dans le temple de l'Éternel, ces vases précieux. Et là, dans l'accomplissement d'une telle mission, il ne pouvait que s'appuyer sur Dieu. C'est pourquoi il ne recherche pas l'aide qu'il aurait pu obtenir du roi, et il compte sur Dieu seul pour que ces trésors qui lui étaient confiés soient gardés jusqu'à leur arrivée. Par contre, Néhémie était le gouverneur, allait être le gouverneur. Il n'avait pas encore sa mission. Elle commence véritablement quand il arrive à Jérusalem et qu'il s'occupe d'informer les réchappés qui étaient là, et la construction de la muraille commence au chapitre 3. Donc il est là tout à fait libre de demander au roi ces lettres et ce bois nécessaires à la construction des portes et de la muraille. L'orientation du cœur de Néhémie était selon Dieu. Il voyait ce qu'il avait à accomplir. Et nous devons nous garder de conclure hâtivement quand un homme de Dieu se tient devant Dieu pour faire l'œuvre de Dieu, eh bien, il a l'attitude que Dieu va lui dicter, répondant aux circonstances dans lesquelles il se trouve. Et dans les deux cas, ces hommes de Dieu agissent avec foi et découvrent que la bonne main de leur Dieu est sur eux. Donc c'est comme l'approbation de Dieu sur ce qu'ils ont fait, sur ce qu'ils ont demandé, ou pas demandé. Ce qui compte finalement dans toute l'œuvre que nous entreprenons pour la gloire de Dieu, c'est une dépendance constante pour faire ce qui est selon sa volonté. Et cela suppose bien sûr un temps d'exercice, pour que Dieu puisse nous employer utilement.
Ce passage en ce qui concerne la main de Dieu sur les siens est donc fort instructif, fort encourageant aussi, pour autant qu'il y ait, nous le comprenons bien, dépendance de Dieu. Dans Deutéronome 33, verset 3, déjà, nous avons ce verset remarquable. On a dit qu'il y avait là, comme le cœur de Moïse a découvert dans ce chapitre, « Oui, il aime les peuples, tous ses saints sont dans ta main. » Remarquons l'expression « Ils se tiennent à tes pieds, ils reçoivent tes paroles. » N'y a-t-il pas chez Néhémie quelque chose qui correspond exactement à ce que nous avons là? Quand il est question en Esdras 7 de ce scribe versé dans la loi de Moïse qu'avait donné l'Éternel, il est dit à la fin du verset « Selon que la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui. » Et au verset 9 de ce même chapitre, nous avons cette remarquable expression « Selon que la bonne main de son Dieu était sur lui. » Nous l'avons deux fois, cette expression de la bonne main de son Dieu. Et puis, plus loin, dans le chapitre 8, nos frères l'ont souligné déjà, selon, verset 18, que la bonne main de notre Dieu était sur nous. Et à la fin du verset 22, la main de notre Dieu est en bien sur tous ceux qui le cherchent. Remarquons encore dans le chapitre 8 et au verset 31, la main de notre Dieu fut sur nous, il nous délivra de la main de l'ennemi et de toute embûche sur le chemin, ce que nous verrons dans la suite de notre chapitre 2 concernant Néhémie. Mais que cette expression, chers amis, soit aussi encourageante pour chacun de nous. Et je le répète, pour autant, bien sûr, qu'il y ait dépendance du Seigneur et pleine confiance.
on peut éprouver les effets de la main de Dieu dans des conditions très diversifiées. On peut la ressentir en discipline, en gouvernement, lorsqu'en quelque sorte il appesantit sa main sur nous pour nous faire sentir à son école ce dont nous avons besoin. C'est ainsi que Job, au chapitre 13 de ce livre, peut dire « Éloigne ta main de dessus moi et que ta terreur ne me trouble pas ». Il sentait le poids de la main de Dieu dans cette douloureuse école. Et les versets qui ont été cités et qui nous occupent placent devant nous alors cette main en protection. Que ferions-nous sans la main protectrice du Seigneur? Et ne pouvons-nous pas voir aussi dans ces dispositions apparemment contrastées entre celle d'Esdras au chapitre 8 qui avait honte de demander le secours du roi, alors que Néhémie, qui est un homme spirituel, demande au roi des lettres pour lui permettre d'exécuter sa tâche. Est-ce qu'il n'y a pas, d'une part, le fait que, comme on le lit par ailleurs, il y a différentes mesures de foi? Et la dépendance, la confiance, la foi ont des mesures différentes chez des croyants et se manifestent peut-être aussi différemment, mais il y a aussi une diversité de services. Le service d'Esdras n'était pas le même que le service de Néhémie, et le voyage qu'allait entreprendre Esdras n'était pas de même nature que celui qu'allait entreprendre Néhémie. Esdras va être chargé de valeurs. Tous ces vases d'or et d'argent qu'il a pour mission d'amener à Jérusalem dans la conscience que tout sera inscrit, tout sera noté. Nous le savons bien dans ce chapitre 8 d'Esdras à la fin, une manifestation figurée du tribunal de Christ. Qu'avons-nous fait des valeurs desquelles nous sommes les porteurs? Tout va être inscrit, contrôlé à l'arrivée, à Jérusalem. Alors, on comprend combien il a besoin, il ressent la nécessité du secours et de la protection unique de Dieu. Il le dit avant de partir, et il le dira en arrivant, que s'ils sont arrivés, c'est en vertu ou grâce à la protection divine, au secours divin, car dans le voyage, entre le départ et l'arrivée, il y a deux expériences faites, c'est de la présence de l'ennemi et des embûches du chemin d'une part, et de la main de l'Éternel en protection d'autre part. Et s'ils sont arrivés, ce verset est si beau puisqu'il retrace en figure toute la vie chrétienne, nous partîmes et nous arrivâmes. Nous sommes partis nous aussi, porteurs des vases de l'Éternel, d'où la sainteté requise, comme le dit le prophète Ésaïe. Et nous sommes des porteurs de valeurs des plus hauts prix, et devons être conscients qu'à l'arrivée, tout sera manifesté. Mais nous sommes partis, nous savons que nous arriverons, et nous expérimentons tout à la fois dans le voyage, et les embûches du chemin, et les ennemis, et d'autre part, la main de l'Éternel qui a été en protection. La main de notre Dieu fut sur nous et nous délivra de la main de l'ennemi et de toute embûche dans le chemin. Tandis que le départ de Néhémie, il part en quelque sorte sans rien, il ne porte rien. Il sent la nécessité d'être autorisé à prélever, à couper du bois dans la forêt. Alors cela le conduit à demander une autorisation et des lettres lui permettant d'accomplir son service. Et la foi est ressentie en fonction du ministère, la nature du service et de la diversité des mesures, elle est ressentie différemment. Mais les deux expérimentent la valeur de la main de Dieu.
On peut comprendre qu'il était nécessaire que Néhémie demande avant son départ plutôt qu'à son arrivée. Les distances étaient telles que ça posait des problèmes très très grands pour faire des demandes au roi depuis Jérusalem, n'est-ce pas?
Du reste, si Esdras avait honte de demander au roi, c'est que le roi ne lui avait pas donné une escorte. Et comme il allait pour l'Éternel, il avait honte de demander, puisqu'il était un sacrificateur et qu'il allait pour Dieu. Nous voyons qu'en Esdras 7, au verset 27, il peut dire « Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a mis de telles pensées dans le cœur du roi, d'orner la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem. » Il allait, le roi lui avait donné, c'est le même roi, nous le voyons au chapitre 7 au début, le roi lui accorda au verset 6 à la fin toute sa requête, on a dit, selon que la main de l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Et le roi donne une lettre, verset 12 du chapitre 7, Artaxerces, roi des rois, à Esdras, sacrificateur, scribe accompli de la loi du Dieu des cieux. Il lui facilite tout, mais il ne pense pas à lui donner une escorte. Parce que finalement, Esdras, il l'apprécie, c'est un sacrificateur, c'est un scribe versé, mais Esdras n'avait pas une relation particulière avec lui. Néhémie est son échanson. Néhémie est le gouverneur qui l'envoie. Et au verset 9, il est dit « Or, le roi avait envoyé avec moi des chefs de l'armée et des cavaliers. » C'est le roi qui a envoyé. Parce qu'il envoie un personnage important, et l'importance de Néhémie ressort notamment du fait qu'il sait qui est la personne compétente pour lui donner du bois à Jérusalem qui était à je ne sais pas combien de kilomètres de Suse. Il fallait connaître l'organisation du royaume pour pouvoir demander une lettre au roi pour ce personnage. Alors on voit Néhémie était quelqu'un de très important. Le roi, tout naturellement, envoyant un de ses hauts fonctionnaires ou peut-être même ministre, l'entoure d'une escorte. Mais au moment où Néhémie occupe son poste, même de gouverneur, on n'entend plus parler des chefs de l'armée et des cavaliers. À ce moment-là, Néhémie agit pour Dieu et on n'entend parler que de ces jeunes gens qui sont avec lui pour défendre le peuple. C'est très beau de voir cela. Quand il est en mission officielle, il accepte, et il n'avait pas lieu de ne pas accepter ce que le roi lui donne. Le verset 9 dit « Le roi avait envoyé avec moi ». Et puis au moment où il est dans sa fonction, si l'on peut dire, pour Dieu, eh bien il agit avec la foi et il est seul avec ces jeunes gens.
Juste deux citations pour confirmer ce qui nous a été dit tout à l'heure de la main de Dieu qui peut être en jugement ou en bénédiction. On a exactement la même expression, c'est surprenant, dans Lamentation de Jérémie au chapitre 3. Certes, c'est contre moi qu'il a tout le jour tourné et retourné sa main. C'est donc un jugement là, ça s'inscrit dans, ça s'insère dans tout ce que Jérusalem souffrante exprime, voilà, de la main de Dieu, voilà ce que j'ai reçu, il a tourné et retourné sa main. Et puis dans Zacharie, au chapitre 13, et à la fin du verset 7, quand il y a celui qui s'est substitué pour le jugement, et puis réveille-toi contre mon berger, contre l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées, frappe le berger et le troupeau sera dispersé, et je tournerai ma main sur les petits. Donc là, une bénédiction qui est la conséquence de la du pardon que Dieu accorde. Parce que celui qui a connu l'épée à la place de ses petits a subi là leur condamnation. Dieu peut tourner sa main, c'est une bénédiction.
À cet égard, on peut peut-être juste citer encore en Ésaïe 1, au verset 25, ce qui nous aide aussi à comprendre le sens de ce verset. « Et je tournerai ma main sur toi, et je te purifierai de tes scories comme avec de la potasse, et j'ôterai tout ton étain, et je rétablirai tes juges comme au commencement, etc. » On voit que là, c'est un jugement, et une fois que le jugement a eu son effet, Dieu peut rétablir. J'aimerais juste citer une chose en relation avec la fin du verset 8 qui nous a amené à ces différents versets, ce qu'un frère qui a écrit sur ces chapitres a dit, « Il est bon d'entrer dans une difficulté avec la prière, c'est ce que nous avons vu au début du chapitre, et d'en sortir avec la louange. Il peut dire, le roi me les donna selon que la bonne main de mon Dieu était sur moi.
Il semble que la foi de Néhémie réveille en quelque sorte le peuple qui s'était assoupi. Ils étaient en petit nombre, ils étaient dans la misère. Voilà, une belle parole. Venez, bâtissons la muraille de Jérusalem afin que nous ne soyons plus dans l'opprobre. C'est beau cela.
On peut voir, semble-t-il, une marque d'humilité chez Néhémie quand il s'intitule simplement un homme au verset 10. Ils furent très mécontents, donc Sanballat, Tobija, qui étaient des gouverneurs eux aussi, je pense, là de l'autre côté du fleuve. Ils furent très mécontents de ce qu'un homme fût venu pour chercher le bien des fils d'Israël. Il ne dit pas ici dans son récit de ce que ils furent très mécontents de ce que le roi Artaxerxès m'avait institué gouverneur de Juda pour le bien du peuple, mais de façon extrêmement humble, de ce qu'un homme fut venu pour chercher le bien de Jérusalem.
Dans ce verset 10, les noms des ennemis du peuple ont changé, mais l'inimitié reste. Dans Esdras, chapitre 5, verset 6, c'était des autres hommes. Mais nous voyons que sitôt qu'il y a du bien formé chez un croyant par l'Esprit de Dieu, eh bien, l'ennemi est là, mécontent de ce qu'un homme comme Néhémie est dans la main de Dieu pour apporter la bénédiction au peuple.
Le résumé de sa mission nous est donné par cette expression « Cherchez le bien des fils d'Israël ». Il s'agissait de reconstruire la muraille, de rétablir ses ruines, et le matériel nécessaire est demandé pour cela. Mais cela en vue quoi? Le bien des fils d'Israël. Donc, il y a une identification ici entre la ville et les personnes qui sont là, le résidu lui-même. C'est d'une part pour la gloire de Dieu que cette ville doit être rebâtie, la muraille doit être refaite, mais aussi le bien, chercher le bien. Est-ce que ce n'est pas aussi pour nous tout un programme, chercher le bien de nos frères, le vrai bien de nos frères? Quel est-il? En prendre conscience, le désirer, y travailler, prier pour cela. Tout ce qui est ainsi placé devant nous, à l'exemple de cet homme de Dieu.
On peut voir tout ce programme que Néhémie nous enseigne. Nous avons tout à l'heure rappelé ce verset 17. Venez et bâtissons la muraille. Mais avant cela, il y a toutes sortes, beaucoup de choses qui se sont passées. On s'est arrêté dans ce chapitre premier sur ce qu'il avait entendu, des nouvelles. Et puis il prie. Donc il n'a rien vu pour le moment. C'est des nouvelles, on lui a rapporté. Et dans ces versets qui nous occupent, 10 et suivants, il va voir sur place. Il considère. Il ne se contente pas des bruits avec toutes les déformations que cela peut apporter. Il va voir sur place. Et là, il est seul, la nuit. Il n'a plus toute son escorte officielle. Et ensuite, il communique à ces Juifs, et il leur dit, venez et bâtissons. J'aimerais souligner ces grandes étapes. D'abord, l'information, par lettre, par du bouche à oreille, ensuite, aller sur place, voir, s'enquérir, considérer, et ensuite, se lever. L'action pratique est réelle.
La lecture du deux versets dans le psaume 122, cité tout à l'heure, qui ont toute leur actualité pour nous aujourd'hui. Il parlait de Jérusalem, et au verset 6, nous avons demandé la paix de Jérusalem. Ceux qui t'aiment prospéreront. Jérusalem, pour nous, c'est l'assemblée. Avoir les intérêts de Christ sur nos cœurs. Que la paix soit dans tes murs, la prospérité dans tes palais, à cause de mes frères et de mes compagnons. Je dirai que la paix soit en toi, à cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu. Je rechercherai ton bien.
Bon, rappeler qu'au verset 10, nous avons cette déclaration qu'ils furent très mécontents de ce qu'un homme fut venu pour chercher le bien des fils d'Israël. Il n'y a rien de surprenant lorsque des fidèles ont à cœur la gloire de Dieu dans son peuple et par conséquent est nécessairement le bien de ce peuple. Par la séparation du mal, ce dont nous parlent les murailles, il y a nécessairement des réactions négatives, souvent violentes, de la part d'un monde religieux, voire même de la part de croyants qui n'ont pas saisi les caractères d'un vrai témoignage. Alors on s'oppose. On n'est pas d'accord avec les murailles. Il faut qu'on ait la liberté d'aller et venir. On est très mécontent, et l'expression est très frappante, de ce qu'un homme fut venu pour chercher le bien. On s'oppose à ce qui est en vue du bien du peuple de Dieu. Parce qu'on ne comprend pas la nature de l'intervention, on ne comprend pas et on ne souscrit pas au but poursuivi, parce qu'on n'a pas saisi la pensée de Dieu en rapport avec le caractère d'un peuple qui doit être séparé. On a quelque chose d'un peu semblable dans le livre des Juges au chapitre 15, en rapport avec Samson. Samson, malgré toutes ses défaillances, malgré son manque de clairvoyance, on sait bien que les yeux ont été un élément chez lui qui l'ont fait faire bien des écarts, et Dieu l'a touché en cela, il lui a repris ses yeux. Indépendamment de cela, Samson était quand même animé d'un désir du bien comme juge, du bien du peuple de Dieu, malgré toutes ses lacunes. Mais quand il intervient dans ce chapitre 11, et que les Philistins montent contre Juda, on voit que les hommes de Juda viennent vers Samson. Elle lui dit au verset 11 au milieu, « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu fait ?» En quelque sorte, ces hommes de Juda, du peuple de Dieu, disent au juge Samson, « Tu devrais donc savoir que maintenant ce n'est plus comme avant, les Philistins règnent sur nous, il faut en prendre notre parti et ne pas venir nous troubler par tes réactions à l'égard des Philistins. Ne sommes-nous pas exposés aujourd'hui encore, et peut-être aujourd'hui surtout, à de telles réactions. Quelqu'un qui s'élève contre les assauts de l'ennemi, qui ont pour but de faire perdre les caractères du peuple de Dieu, eh bien on n'aime pas cette voix qui vient troubler. Laisse-nous tranquilles. Tu devrais savoir que maintenant, les circonstances ne sont plus celles de jadis, et que les Philistins règnent sur nous. Et une voix qui s'élève dans un état troublé ou anormal au sein du peuple de Dieu pour revendiquer les droits divins et pour les oreilles et le cœur de beaucoup, un trouble fait. Et on veut le faire taire. On n'accepte plus cette intervention. C'est ainsi qu'il est absolument compréhensible que beaucoup d'hommes religieux, dont les noms nous sont donnés dans ce verset 9, sont en opposition et s'élèvent et sont très mécontents de ce qu'un homme intervient pour retrouver, moyennant des murailles, le caractère de sainteté pratique du peuple de Dieu.
Psaume 29.
Le bon...